RMC, face aux grandes gueules.
On l'a vu plus vite depuis le Covid. Bruno Mégarban, le chef de service réanimation à l'hôpital de la Rivoisière. Bonjour, monsieur Mégarban.
Bonjour, docteur.
C'est un retour vers le futur. Est-ce qu'on est en train de revivre justement les premiers jours du Covid, selon vous ?
Non, pas du tout. En fait, ça n'a strictement rien à voir. Le Covid, quand les autorités sanitaires ont pris conscience de ce nouveau virus, le virus avait déjà diffusé un peu partout sur la planète et notamment dans la communauté. Il n'était plus contrôlable. Il aurait fallu évidemment, si on voulait avoir évité cette pandémie, contrôler les choses dès que le virus a contaminé la première personne, probablement dans le laboratoire chinois. Ici, on prend les choses bien en amont. On connaît le patient zéro. On connaît tous les personnes contacts. On a tracé leur circuit.
On les a laissés quand même partir un peu partout.
Ça c'est quand même, ils sont partis un peu partout, certes.
Ça a été une erreur de déconfiner en quelque sorte ce navire de croisière.
Non, je ne dirais pas une erreur, parce que très clairement cette solution a été envisagée par l'OMS, mais probablement pour des raisons politiques, organisationnelles, juridiques, météorologique, il a été décidé de ne pas opter pour cette solution et plutôt de renvoyer les personnes.
Du coup, on a un cas en France. On a eu un premier cas en France.
En fait, c'est qu'au lieu d'avoir toutes les personnes potentiellement à risque de faire l'infection dans un même endroit où on peut concentrer toutes les forces médicales et de surveillance, on les a mis dans différents pays. Alors, je crois que dans beaucoup de pays, dont la France, les choses sont prises au sérieux et la stratégie pour limiter la diffusion est bien mise en place. Par contre, dans d'autres pays, c'est peut-être un peu douteux, notamment aux États-Unis, où le ministre de la Santé ne croit pas trop au risque des virus.
Mais tiens, il y a la Coupe du Monde qui va arriver là, aux États-Unis. Il va y avoir un brassage de plusieurs centaines de milliers de personnes. Elle est dans un mois et demi. Est-ce qu'on peut mettre un point d'interrogation par rapport à l'antivirus ou pas ?
Alors, je dirais, c'est là où viennent d'autres arguments qui vraiment différencient cette épidémie antivirus de l'épidémie à SARS-CoV-2. C'est que la transmissibilité de ce virus n'a rien à voir. D'accord. Par ailleurs, évidemment, l'hôte naturel ne se trouve qu'en Amérique du Sud. Et donc ça, bien sûr, ça ne favorise
pourquoi
pas la diffusion.
Pourquoi la transmission est différente ? Expliquez-nous.
Alors,
pourquoi.
Donc, en fait, le SARS-CoV-2, comme vous le saviez, c'était très transmissible, notamment par des aérosols. C'est-à-dire, en fait, des microparticules de moins de 1 micron qui flottent dans l'air et qui peuvent se transporter, y compris dans un métro, dans un bus, dans un avion. Ici, il faut des contacts très proches avec essentiellement des échanges de particules salivaires. Donc, soit en s'embrassant, soit en dormant dans la même chambre, ou en mangeant, en partageant un repas. Il n'a pas été démontré pour le moment qu'en croisant quelqu'un dans la rue ou dans un transport en commun, on puisse être contaminé.
Mais c'est un virus qui est beaucoup plus mortel.
Voilà, c'est un peu le problème, évidemment. C'est pourquoi il y a toutes ces alertes et que toutes les autorités sanitaires sont en éveil. C'est qu'effectivement, si jamais vous êtes contaminé, le risque de présenter une maladie grave avec cardio-respiratoire, avec une décompensation cardio-respiratoire et le risque de décès sont élevés. Alors malgré tout, une petite nuance, c'est que tous ces risques-là et cette létalité déterminée de l'ordre de 40% a été calculée à partir d'une situation d'un cluster épidémique en Argentine en 2018. Et on ne sait pas exactement les conditions médicales de prise en charge. Maintenant, peut-être qu'aujourd'hui, prise en charge très précocement dans le déroulé de l'infection dans un hôpital avec une réanimation moderne, en France ou dans un pays occidental, la mortalité serait plus
basse. On a raison, comme le fait maintenant le gouvernement français, c'était pas d'ailleurs le premier protocole, mais dans ce deuxième protocole, de mettre également les cas contacts à l'isolement, en quarantaine renforcée en milieu hospitalier.
Je dirais oui, si évidemment les experts ont décidé ça avec le gouvernement. C'est pas le gouvernement qui a...
Non, bien sûr.
Voilà, ce sont des experts en maladies infectieuses et en épidémiologie qui ont décidé ça. En tout cas, c'est une mise à l'isolement plus renforcée. Donc, évidemment, qui écarte tout risque qu'une personne ne suive pas les recommandations. Et c'est vrai qu'il y a eu ce renforcement quand on a vu quand même de nouveaux cas d'infection apparaître. En fait, ça, c'était tout à fait attendu, puisqu'on sait que la période d'incubation est longue. Mm-hmm. Donc elle est en moyenne de 10 à 15 jours, mais elle peut aller jusqu'à 6 semaines. Donc on attend, et d'ailleurs on attend toujours que de nouveaux cas apparaissent. Et donc ça c'est pas nouveau et c'est pas plus inquiétant. D'accord. De nouveaux cas vont apparaître. La seule problématique, évidemment, qui changerait tout notre discours, c'est si des nouveaux cas d'infection apparaissaient chez des personnes qui n'ont pas été sur le navire. C'est-à-dire à ce moment-là qui se sont contaminées par contact avec des cas contacts.
Il peut y avoir des mutations, parce qu'au moment du SARS-CoV, on avait parlé beaucoup de mutations du virus. Peut y avoir une mutation.
Alors, c'est un virus qui, on va dire, qui a ARN, donc un peu comme le SARS-CoV-2, mais il est connu depuis une trentaine d'années. Il y a déjà des études de séquençage qui ont été effectuées. Il n'y a pas le recul suffisant pour savoir s'il y a des mutations importantes ou pas. En fait, tous les virus sont des êtres vivants. Mmh. Par définition, il y a des mutations. Et le nombre de mutations dépend de l'importance de la réplication d'un virus. Plus un virus se répand et se multiplie, et plus il y a une probabilité de mutation. Car les mutations arrivent par hasard, en fait. Et ensuite, il y a une sélection des souches les plus compétitives. Voilà, c'est les lois de la sélection naturelle.
La sélection naturelle de Darwin.
Quels sont les symptômes? C'est une grosse bronchiolite?
Alors, on va dire ce virus-là. En fait, la souche Andes de l'antivirus, qui est donc un virus qui jusqu'à il y a quelques jours, n'existait qu'en Amérique du Sud, a un tropisme très particulier pour le poumon et le cœur. En fait, il y a une phase d'incubation donc relativement longue. Ensuite, il y a une phase prodromique où le virus se multiplie rapidement et ça ressemble à n'importe quelle infection virale. Donc, on va dire de la fièvre, des fatigues, des douleurs musculaires, articulaires, le nez qui coule, maux de ventre. Voilà, bon, en fait, quelque chose de rien d'important. Mais rapidement, ce virus s'oriente vers...
S'attaque au cœur et au
poumon. Voilà,
au poumon
et au cœur. En fait,
les gens qui ont des...
Exactement. En fait, comme vous l'avez dit, ça va donner une bronchopneumonie, donc à l'origine d'une insuffisance respiratoire aiguë, et une myocardite à l'origine de troubles de la conduction cardiaque, de troubles du rythme et de la fonction myocardique.
Oui, Emmanuel. Ah, monsieur Mégarban, votre voix extraordinaire. De tous les médecins de plateau, vous êtes le meilleur.
Merci beaucoup.
Vous ne devriez pas vous appeler monsieur Mégarban, vous devriez vous appeler Bruno, ça va bien se passer. Vous avez toujours l'art d'expliquer les choses. On vous accompagnerait jusqu'en enfer.
C'est
alors,
gentil.
Ceci étant, au-delà de votre talent.
En salle de réanimation.
Au-delà de votre talent.
C'est vrai qu'on aimerait tous savoir comme médecin. Des rassurants.
Et de vos fonctions qui sont réelles. Et vous n'êtes pas, contrairement à d'autres, un commentateur. Vous êtes un vrai acteur de la médecine au plus haut niveau. Mais je voudrais juste d'un mot revenir sur le Covid. Est-ce que vous faites quand même, je ne parle pas spécialement personnellement, mais tout de même dans ce concert des sachants auxquels vous apparteniez, une autocritique et une manière de tirer des leçons du Covid, parce que notre temps est compté, la vaccination obligatoire, alors qu'on a découvert que le vaccin n'empêchait pas la transmission, qu'on a découvert que seules les personnes malades ou faibles de santé était en risque par le Covid, et on a imposé la vaccination obligatoire, on a confiné les gens, on les a empêchés de vivre, on a fermé l'économie, on a mis la France en faillite. Est-ce que vous faites votre autocritique, docteur Mégarban?
Alors, tout d'abord, évidemment, moi-même, je n'ai décidé de rien. Je n'ai aucun lien avec le gouvernement et je n'ai pas le pouvoir de décision. Je n'étais là que pour expliquer les mesures prises par les autorités de santé, la Direction Générale de Santé et le ministère. Alors, on va dire, il y a plusieurs niveaux. Donc effectivement, oui, il y a eu des erreurs initiales concernant, on va dire, la gravité de l'infection. Effectivement, au début, on a beaucoup de médecins ont parlé de grippette, d'infection banale, qui n'aurait pas eu de victimes. Et ça, il y a eu des erreurs, probablement parce que les Chinois avaient sous-estimé très largement la gravité de l'infection. Donc là, oui. Mais très rapidement, dès les premiers cas, quasiment dès les trois premiers jours où les patients sont commencés à arriver à l'hôpital, nous avons vu immédiatement la gravité de la maladie avec le risque de décès. Et je rappelle, une fois hospitalisé en réanimation, c'est-à-dire pour les formes graves, la létalité était de 30%. C'est-à-dire un patient sur trois admis en réanimation décédé. La létalité globale du SARS-CoV-2 au début était de 1 pour 1000. Vous voyez, ici, on parle de 40%. Donc là-bas, c'est quand même 1 pour 1000. Donc on voit bien que c'est quand même beaucoup moins grave, évidemment, le SARS-CoV-2 que l'infection à
rentabilité. Mais sur la vaccination obligatoire,
alors, maintenant, docteur. Alors, on va faire trois étapes. Sur le confinement, je crois que le confinement était indispensable. Alors, pourquoi? Pourquoi? Parce que, effectivement, il y a eu tout de suite une montée en puissance du nombre de victimes et donc d'un besoin d'hospitalisation. On n'aurait pas imposé le confinement. Il y aurait eu un nombre tellement important de victimes justifiant d'une hospitalisation qu'on n'aurait pas pu les prendre en charge. Donc, il y aurait eu des morts uniquement par le fait que ces personnes n'auraient pas pu être hospitalisées. D'ailleurs, les experts estiment que si même le confinement avait été mis une semaine avant, on aurait réduit par plus de 50% la mortalité de la crise. Alors,
restons sur l'antivirus.
Le dernier mot, ensuite...
La vaccination obligatoire.
Alors, voilà. La vaccination, alors je dirais, elle n'a été en fait obligatoire que pour le personnel soignant. Elle était, on va dire,
oui, mais par le pass sanitaire.
Pour les autres personnes, elle a été rendue
quasiment
incitative. Ouais. Alors, après, c'est ma position.
En vérité, là, vous êtes comme avec votre confesseur. Allez-y.
C'est ma position. Je dirais, ce qu'a permis la vaccination, c'est en fait un gain collectif. D'abord, pourquoi? Parce qu'en fait, on a monté très haut et très rapidement le niveau d'immunité de la population. Que le virus s'est heurté à ce mur et a rapidement changé, muté, pour une forme beaucoup moins grave qui est Omicron. Après, pour certaines personnes, c'est-à-dire les plus fragiles, celles avec comorbidité, il y a eu un bénéfice individuel. Mais je suis d'accord avec vous, probablement pour l'ensemble de la population, le bénéfice individuel était plus limité.
Et non, on ne peut pas parler de tous les effets secondaires. Ce matin, j'ai une cérémonie, là il est 11h, de quelqu'un qui est mort, qui était un ami. Sa cérémonie d'enterrement se termine. Sa mort est inexpliquée.
Moi, je pense qu'il eût été plus logique et plus compréhensible, je fais très vite après, promis, je te laisse la parole, que le milieu politico-scientifique ensemble fasse un communiqué explicatif pour le peuple, pour au moins qu'on sache quelle a été l'origine du Covid. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, mais il n'y a pas eu de communication officielle. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de repartir sur une communication avec ce hantavirus. Le peuple n'est plus disposé aujourd'hui à recevoir des injonctions. Et si j'étais taquin, je vous dirais avec tout le respect que je vous dois que votre présence sur le plateau m'angoisse. Parce que je suis dans retour vers le futur. J'ai l'impression de revenir à la période Covid avec votre pédagogie, votre douceur, comme Emmanuel l'a dit. Donc voilà, aujourd'hui, on ne veut plus repartir dans ça. Le Premier ministre a annoncé qu'il fait une conférence en fin d'après-midi. Il y a deux réunions interministérielles. Les Avengers des scientifiques vont ressortir sur tous les plateaux. Je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir une communication, je pense, plus maîtrisée et plus rassurante parce que notre préoccupation reste le pouvoir d'achat, nonobstant le fait qu'il faut faire attention à la santé publique, bien entendu.
Non, vous avez raison, mais en tout cas, un certain nombre de médecins, effectivement, communiquent dans les plateaux télé et dans les radios, en fait, à viser de la population. Alors, nous avons, en tout cas, pour cette crise-là, un message plutôt rassurant. Malgré tout, on essaye d'expliquer les mesures qui ont été décidées par les autorités sanitaires et, effectivement, l'importance de contenir cette infection. Aujourd'hui, uniquement à une seule chambre à l'hôpital Bichat pour éviter toute diffusion et tout risque ultérieur.
Du coup, vous savez comment c'est. On a reproché aux autorités, au tout début de l'épidémie du Covid, de ne pas en avoir fait assez, d'avoir minimisé. On nous expliquait que le masque, c'était compliqué à mettre, donc on ne pouvait pas vous en avoir. Bon, on savait qu'on n'en avait pas, en fait. Bon, et là, maintenant, on en fait beaucoup. Alors, le Cornu, il a prévu de faire deux réunions par jour, conférence de presse cet après-midi avec la ministre de la Santé. Alors voilà, est-ce qu'on est en train de corriger? Alors, on en fait trop pour ne pas être accusé comme les mêmes ou d'autres ont été accusés de ne pas en avoir fait assez.
Alors, bon, j'allais dire... on peut jamais dire qu'on en fait trop, mais effectivement, en tout cas, au début, c'est le rythme qui a été adopté. Vous voyez, il s'adapte. C'est-à-dire qu'au début, on avait plutôt recommandé un auto-isolement des personnes contacts. Maintenant, et on est revenu sur une hospitalisation avec un confinement un peu plus strict. Là, c'est pareil. On fait deux réunions par jour. Peut-être qu'avec le week-end prolongé qui s'annonce, ça va un peu s'élargir. Et peut-être la semaine prochaine, il n'y aura plus qu'une seule réunion par semaine.
À quel moment on pourra dire, ça y est, on est sorti d'affaire, puisqu'il y a 6 semaines d'incubation, donc dans un mois et demi?
Alors, en fait, la situation, on va dire, la plus angoissante, c'est celle des 4 personnes qui sont en contact de la personne infectée. Pourquoi ? Parce que eux, très probablement, ils ont été en rapport avec elle de façon assez rapprochée. Jusqu'au moment où chacun est rentré dans une chambre différente. Et donc, ces personnes-là, effectivement, vont devoir attendre 6 semaines au maximum, mais quand même en moyenne plutôt une quinzaine de jours pour être sûr qu'ils ne sont pas porteurs du virus. À nouveau, à ce jour, leurs tests sont tous les 4 négatifs.
Pour l'instant, c'est négatif.
Voilà, mais on n'en sait pas. Après, à nouveau, tous les contacts, effectivement, seront définitivement assurés au bout de 6 semaines. Mais, j'allais dire, pour le moment, nous n'attendons pas qu'il y ait un cas supplémentaire en dehors de ces sujets contacts. Et effectivement, la grande inquiétude viendrait si une personne devenait positive et n'avait pas séjourné sur le navire. C'est-à-dire, sous-entendu, la contagiosité que l'on dit relativement limitée est finalement pas si limitée
plus que ça. Que
et là, bien sûr, on serait beaucoup plus inquiétant.
Il y a quand même un doute, hein, vous n'êtes pas tous d'accord sur justement la contagionnalité de ce virus. Certains disent que ça peut être peut-être plus important que prévu.
Alors en fait, on se base sur les foyers épidémiques en Argentine, et notamment l'étude la plus importante concerne un anniversaire. Et c'est de là où, on va dire, on a pu affirmer la transmission interhumaine et la létalité en question et la gravité. Pourquoi ? Parce que c'est un cluster, donc assez isolé, mais quand même d'une personne qui a assisté à un anniversaire, qui était elle-même contaminée par les rats et qui est venue à cet anniversaire, où il y avait, je crois, une trentaine de personnes, et il y a eu quand même, il y a eu une trentaine de contaminations, il y a eu quand même 11 décès parmi les 30 personnes. D'où ces calculs de létalité. Mais maintenant, on ne sait pas comment s'est fait, on va dire, ce repas, dans quelles conditions, à quelle distance les gens étaient. Et puis surtout, le nombre de morts, on ne sait pas aussi comment les gens étaient pris en charge médicalement.
Des questions, Barbara, pour terminer.
Oui, enfin, vous avez dit que c'était un virus ARN. Est-ce que vous pensez que là, on a de nouveau les Moderna et Pfizer qui pourraient éventuellement s'agiter à nous faire de nouveau un vaccin ARN ? Parce que je ne vais pas verser non plus dans les questions complotistes. J'ai moi-même dû subir 3 injections de ce truc qui m'ont rendu particulièrement malade. Donc, à mon sens, hein. Pas le recul sur les effets à long terme de cette vaccination de masse que nous avons eu à vivre, parce qu'on n'a pas eu le choix, parce qu'à un moment donné, pour avoir le droit de vivre et d'avoir le pass sanitaire, il a fallu se faire vacciner. Est-ce que là, vous pensez qu'il y a une opportunité commerciale pour ces grands labos pour s'inventer le vaccin ARN contre l'antivirus, qui pourtant ne touche qu'une personne de tous les 15 ans ?
Alors, je dirais non, parce qu'effectivement, ça n'est probablement pas rentable au stade actuel. On va dire voilà. D'abord, premier
on va
point.
Dire dès que ça le sera.
Alors, premier point, on va dire, il y a une cinquantaine de souches d'antivirus différentes, dont une petite quinzaine qui est responsable de zoonoses, c'est-à-dire d'infections humaines.
C'est ça.
Donc, ces souches sont différentes. Donc, il faudrait en fait une quinzaine de vaccins pour chacune des souches. Sachant que, on va dire, il existe déjà 2 vaccins en Chine et en Corée du Sud dirigés contre 2 antivirus que l'on rencontre en Asie. Mais ces vaccins n'ont pas d'habilitation en France, mais ils ne sont pas valides pour la souche des Andes d'antivirus. Alors, évidemment, si un vaccin avait un intérêt pour les antivirus, comme vous avez bien compris, il n'aurait d'intérêt, par exemple, pour la souche andes que pour l'Amérique du Sud. C'est-à-dire, en fait, que pour des voyageurs qui iraient là-bas pour faire de l'ornithologie ou de l'exploration dans des zones forestières, ou pour des professionnels. Car au Chili, en Argentine, en Uruguay, il y a à peu près 200 cas par an d'infection à ce virus.
Il y a des vaccins
donc,
qu'on donne
aux équipiers. Il pourrait y avoir un intérêt, mais vous voyez, vous avez tout de suite compris que c'est un intérêt très localisé. Et donc, il y a l'investissement financier nécessaire pour développer ce vaccin par rapport aux ventes et au marché potentiel est nul. Donc, très probablement, aucun laboratoire ne va s'y intéresser.
Merci, professeur Megarban, d'être passé par les GG, par les grandes gueules. Je rappelle, vous êtes le chef du service de réanimation à l'hôpital Larry Boisier.